Chers frères, chères sœurs, il est important de se souvenir de la mort. Il est important de se souvenir de l'au-delà. Et nous devons par cela et dans cela prendre exemple sur nos pieux prédécesseurs. Sur nos pieux prédécesseurs, à quel point eux se rappelaient de la mort. Et nous allons citer quelques exemples qui vont nous faire frémir, qui vont nous faire frémir nos peaux. Safiya, la fille de Omar, radiyallahu anha, elle dit, une femme est venue se plaindre auprès de Aïcha, radiyallahu anha, sur la dureté de son cœur. Alors Aïcha, radiyallahu anha, de lui dire, souviens-toi abondamment de la mort, et ton cœur s'adoucira. Elle le fit, et son cœur s'est adouci, et elle est revenue remercier Aïcha, radiyallahu anha. Ibn Mas'ud, radiyallahu anha, de dire, la mort suffit comme exhortation, la certitude pour richesse et l'adoration pour occupation. Et surtout en cette période de confinement, na'am, la mort nous suffit comme exhortation et la certitude nous suffit comme richesse. C'est la richesse de nos âmes. La certitude de, notamment de savoir que tu seras présenté auprès de ton Seigneur et l'adoration nous suffit comme occupation. L'adoration, c'est dans cela que nous devons passer notre mois de Ramadan et notre période de confinement, dans l'adoration. Omar ibn al-Khattab est venu voir Ka'b. Il lui a dit, Ya Ka'b, parle-nous de la mort. Alors Ka'b de regarder Omar, radiyallahu anhu, et de lui dire, Ya Amir al-Mu'minin, ô commandeur des croyants, la mort est semblable à un arbuste. Elle est semblable à un arbuste aux nombreuses aiguilles à l'intérieur de l'être humain. Imagine qu'à l'intérieur de toi, tu as un arbre aux nombreuses aiguilles et chaque aiguille, chaque épine, elle touche les veines de chacun de tes membres. Et qu'un homme au puissant bras arrache cet arbre-là. Imaginez cette scène. Tu as un arbre à l'intérieur de toi. Cet arbre avec chaque aiguille, chaque épine touche tes veines et un homme vient et arrache cela. Et lorsque Omar a entendu cela, il s'est mis à pleurer. Un jour, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, regarda son assemblée et leur dit, je vous informe de deux jours. Deux jours dont les créatures n'ont jamais vu de semblables. Le jour où te viendra l'annonciateur d'Allah avec la satisfaction ou la colère d'Allah. C'est-à-dire le premier jour, c'est le jour où l'annonciateur viendra te dire qu'Allah Azza wa Jalla est satisfait de toi ou il est en colère contre toi. Et le jour où tu te tiendras debout, terrorisé quant à savoir si tu prendras ton livre de la main droite ou de la main gauche. Également Abu Darda disait, personne ne se souvient abondamment de la mort sans que sa joie et sa jalousie ne diminuent. Également, un des esclaves de Uthman ibn Affan qui avait été affranchi, il dit, lorsque Uthman s'arrêtait devant une tombe, il pleurait jusqu'à en mouiller sa barbe. Abu Darda disait également, la mort suffit à exhorter. Le temps suffit à distinguer aujourd'hui parmi les vivants. Demain parmi les morts. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait, le croyant n'a pas de repos avant la rencontre d'Allah. Un jour, Abu Darda s'est rendu à des funérailles. Et il a été chez la famille du défunt qui était en train de pleurer. Et il leur dit, pauvres d'eux, morts de demain qui pleurent sur le mort d'aujourd'hui. Également, Ahmad ibn Harb disait, on peut préférer l'ombre au soleil, puis ne pas préférer le paradis à l'enfer. Yani comment une personne peut préférer la douceur de l'ombre à la chaleur du soleil et ne pas passer en priorité le chemin du paradis et rester sur le chemin de l'enfer. Également un des pieux prédécesseurs. Il marchait et il a vu les gens se bousculer pour le jour du Eid. Et il s'est mis à pleurer. Et il a dit, je n'ai pas vu un jour plus semblable que celui-ci au jour de la résurrection. Puis il est rentré chez lui et il est tombé malade. Abu Sulayman rapporte, il dit, Taous, il étendait son lit. Il s'allongeait sur son lit, puis se retournait à la manière du grain sur la poêle, puis il s'immobilisait. Il se redressait et se tournait vers la Qibla jusqu'au matin. Et il disait, le souvenir de l'enfer a fait voler en éclats le sommeil des dévots, yani des pieux. Également, un des pieux prédécesseurs disait, multipliez le souvenir de cette mort qui n'est semblable à rien de ce que vous avez pu connaître. Al-Hassan disait, ô fils d'Adam, foule la terre de ton pied, bientôt elle sera ta tombe. Car tu ne cesses de détruire ton existence depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Subhanallah. Ka'ab disait, celui qui connaît la mort endure plus facilement les malheurs et le souci de ce bas monde. Lorsque l'on demandait à Muhammad ibn Wasi', comment vas-tu ce matin? Il disait, que penses-tu d'un homme qui chaque jour parcourt une nouvelle étape vers l'au-delà? Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, rahmatullahi alayhi, que penses-tu du jour où ils se tiendront sur leurs jambes pour une durée équivalente à 50 000 ans, sans rien manger ni boire, jusqu'à ce que leur cou se brise de soif et que leur ventre brûle de faim? On les emmènera alors vers l'enfer où on les abreuvera d'une source bouillante. Abdel Wahhab ibn Atta disait, lorsque Omar ibn Abdel Aziz mentionnait la mort, tous ses membres tremblaient, et tout son corps tremblait. Al-A'la ibn Muhammad est entré chez Atta al-Salimi et il l'a trouvé évanoui. Imaginez-vous cette scène. Il a trouvé son compagnon évanoui. Alors il a demandé à son épouse, Umm Ja'far, qu'est-ce qui n'est arrivé à Atta? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce qu'elle lui a dit. Notre servante a allumé le four. Il regarda le four et il est tombé évanoui. Daoud ibn al-Muhabbir, il rapporte de son père, Rabi' ibn al-Badr, ibn Badr. Il dit que Rabi' ibn Badr passa près de nous, alors que nous préparions une planche pour un mort. Alors il lui dit, qui est cet étranger parmi vous? Alors eux de répondre, ce n'est pas un étranger, mais c'est un proche bien-aimé. Alors il s'est mis à pleurer. Et il les a regardés et leur a dit, qui est plus étranger que le mort parmi les vivants? Et là, ils se sont tous mis à pleurer. Également, Muslim ibn Ibrahim, il rapporte que Hisham ad-Dustiwa'i n'éteignait jamais sa lampe jusqu'au matin. Subhanallah. Jamais il n'éteignait sa lampe. Il dormait toujours avec une lumière. Et il disait, lorsque je vois les ténèbres, je me rappelle des ténèbres de la tombe. Également Abdullah ibn Sindi, il rapporte que Mubarak a écrit une lettre à son frère Sofiane. Subhanallah, méditez sur ce dialogue entre ces deux frères. Mubarak venait de perdre la vue. Imaginez-vous cette scène. Il a été touché par la cécité. Alors, il écrit une lettre à son frère dans laquelle il se plaint de cela. Il se plaint des complications qu'il a depuis qu'il est devenu aveugle. Alors son frère lui a répondu. Il lui a dit, mon frère, j'ai bien compris ta lettre. Tu t'y plains de ton Seigneur. Rappelle-toi la mort et cela diminuera ta peine pour la perte de ta vue. Que le salam soit sur toi. Également Abu al-Haytham, il a perdu un enfant. Et ensuite il avait encore un jeune garçon qui est décédé aussi. Alors ses frères sont venus lui présenter ses condoléances. Et ils l'ont vu dans un coin de la mosquée. Et il les a regardés, il leur a dit, la tristesse que j'ai pour le jour de la résurrection a fait que je ne m'attriste pour rien de ce que je perds. Et que je ne me réjouis pour rien de ce qu'il me parvient. Subhanallah al-Azim. Également, certains disaient, le souvenir de la mort s'est interposé entre moi et beaucoup de transactions commerciales. Et là, on voit également que dans nos transactions commerciales, dans notre travail, dans notre dans notre dunya, wallah, on doit se rappeler de la mort. Parce que combien malheureusement parmi nous, combien parmi nous ont escroqué, ont volé, ont menti, ont trahi, simplement pour des bienfaits de cette dunya. Mais ils ont oublié le rappel de la mort. Également, certains ont dit, nous avons entendu Ahmed, l'imam Ahmed, rahimahullah, Ahmed ibn Hanbal dire, la jeunesse est pour moi comme une chose que j'avais dans la poche et que j'ai perdue. Thabit al-Bunani, il dit, nous suivions les cortèges funéraires. Et autour du corps, nous ne voyons que des gens qui se camouflaient. Ils pleuraient, ils se cachaient et ils réfléchissaient. Comme si des oiseaux étaient posés sur leur tête. Subhanallah. Voilà comment nous devons être. Voilà comment nous devons être. Lorsque nous suivons un cortège funéraire. Combien malheureusement parmi nous suivent un cortège funéraire et discutent et rigolent. Et sortent des blagues, et prennent des photos, et sont sur les réseaux sociaux, etc. Wallahi, nous n'avons pas compris en réalité que la mort est une exhortation. Omar ibn Abdelaziz, il réunissait les savants, et il se rappelait de la mort et de la résurrection. Et il pleurait comme si un mort, et ils pleuraient ensemble comme si un mort se trouvait devant eux. Yahya rapporte, lorsque les pieux prédécesseurs participaient à des funérailles, cela se voyait sur leur visage pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, cela se voyait sur leur visage. L'imam Ahmed rapporte, il dit, j'ai entendu Shu'aib ibn Harb dire, un homme, si tu entres dans la tombe avec l'islam, réjouis-toi. Et c'est ça notre objectif. C'est d'entrer, et c'est ça en réalité l'objectif. Et pourquoi on fait ce genre de conférence, ce genre de rappel? Pourquoi on se rappelle de la mort? C'est pour ça, c'est pour cette parole. Si tu entres dans la tombe avec l'islam, réjouis-toi. Naam. Si tu es mort sur le tawhid, si tu es mort sur la ilaha illallah, si tu es mort sur l'unicité d'Allah azza wa jal, si tu es mort sur la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam, si tu es mort sur l'islam, réjouis-toi. Et c'est pour cela que l'on se rappelle et que l'on se remet en question. C'est pour prendre ce chemin. On posa la question à l'imam Shafi'i. Il lui dit, pourquoi utilises-tu souvent un bâton alors que tu n'es pas faible? Il dit, pour me rappeler que je suis un voyageur dans ce monde. Al-Hassan disait, ô fils d'Adam, tu n'es fait que deux jours. Et chaque jour qui passe, c'est un peu de toi qui disparaît. Wallahi, pense à cette parole à chaque fois que tu te regardes dans un miroir. Tu n'es fait que deux jours. En réalité, ton corps n'est fait que deux jours. Et chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui disparaît. Mutarrif disait, la mort a corrompu les plaisirs de ceux qui les possèdent. Cherchez donc un plaisir ne comportant aucune mort. Omar ibn Abdelaziz, il disait, si cela n'avait pas été une innovation, j'aurais juré de ne jamais me réjouir de quoi que ce soit en ce bas monde, jusqu'à savoir ce que m'annonceront les émissaires de mon Seigneur. Je n'aimerais pas qu'on rende ma mort facile, car c'est le dernier moment où le musulman peut être récompensé. Et regardez la première chose qu'il dit, si cela n'avait pas été une innovation. Regardez comment ils étaient accrochés aux traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des pieux prédécesseurs un jour regarda sa maison et sa maison lui plut. Alors il s'est mis à pleurer. Subhanallah. Il s'est mis à pleurer et il a dit par Allah, si ce n'était pas la mort, je serais heureux de toi. Si ce n'était l'étroitesse de la tombe vers laquelle nous allons, nous nous réjouirons de ce bas monde. Et il continua à pleurer et il a pleuré encore, bien plus encore que cela. Malik ibn Dinar, il dit, on peut s'étonner de qui sait que la mort est son devenir et la tombe est son lieu de retour. Comment il se réjouit de ce bas monde et en apprécie l'existence? Il se mit à pleurer. Un des pieux prédécesseurs disait, l'armée des morts t'attend. L'armée des morts t'attend. Également Abdul Wahid ibn Safwan, il rapporte, il disait, nous étions avec Al-Hassan à des funérailles. Et il dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui œuvre pour ce jour. Regardez comment ils se rappelaient d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'ils étaient aux funérailles. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce dont sont incapables vos frères qui sont dans ces tombes. Profitez de la santé et du temps libre avant le jour de l'épouvante et du jugement. Aujourd'hui, on peut faire exactement. On peut faire ce que les morts ne peuvent plus faire. Donc profitons de la santé, profitons du temps libre. Profitons du temps libre. C'est peut-être, wallahu a'lam, un des seuls Ramadan que nous vivrons en étant dans cette période de confinement. Donc on se doit de profiter, de ne pas regretter ce moment et de tirer le meilleur de cette situation en multipliant les bonnes actions pendant que nous avons du temps libre. Mujahid, il disait, l'homme n'est pas frappé par une maladie sans qu'un envoyé de l'ange de la mort ne soit à ses côtés. Jusqu'à sa dernière maladie, alors à ce moment-là, c'est l'ange de la mort qui vient. Et il lui dit, des envoyés se sont succédés auprès de toi et tu ne leur as pas prêté attention. Viens à toi celui qui effacera ta trace en ce bas monde. Donc ici la maladie, c'est un grand rappel de la mort. Al-Hassan disait, la mort a démasqué la vie, n'y laissant aucune joie pour l'homme sensé. Aoun ibn Abdillah, il disait, personne ne met la mort à sa juste place, sans considérer que demain ne fait pas partie de son existence. Combien débutent la journée sans la finir? Combien ont espéré demain sans y parvenir? Si vous considériez l'existence et son devenir, vous détesteriez l'espérance et ses tromperies. Également, Abd al-Razzaq, il rapporte que l'A'mash se levait la nuit pour satisfaire ses besoins. Et lorsqu'il ne trouvait pas d'eau, il faisait le tayammum sur un mur. Et ensuite, il s'endormait. Regardez, il se levait pour aller faire ses besoins. Et il cherchait de l'eau. S'il n'en trouvait pas, il faisait le tayammum. Alors quand ils lui ont posé la question pourquoi il faisait ça, il disait « Je crains de mourir sans être en état de pureté ». Regardez comment il se rappelait de la mort à chaque instant. Également, certains ont rapporté, ils ont dit « Lorsque nous participions à des funérailles avec Al-Fudayl ibn Iyad, il ne cessait d'exhorter. » Regardez son comportement lors des funérailles. Il ne cessait d'exhorter. Il ne cessait de se rappeler d'Allah et il pleurait comme s'il disait adieu à ses compagnons et il partait vers l'au-delà. Arrivé au cimetière, il s'asseyait et c'est comme s'il était assis parmi les morts, tant sa tristesse était grande et ses larmes étaient abondantes, jusqu'à ce qu'il se lève comme s'il revenait de l'au-delà et en informait les vivants. Également Ibrahim al-Nakhai dit, lorsque les funérailles avaient lieu, les pieux prédécesseurs restaient tristes plusieurs jours et cela se voyait sur eux alors que vous parlez de choses mondaines dans le cortège funéraire. Al-A'mash, il dit, écoutez cette parole magnifique, il dit, nous participions à des funérailles et nous ne savions pas à qui adresser nos condoléances tant les gens étaient tous tristes. Subhanallah al-Azim. Ibn Hibban, il rapporte de Yahya ibn Abi Kathir, qui comptait parmi les gens pieux. Il dit, lorsqu'il participait à des funérailles, il ne dînait pas, il ne mangeait pas le soir. Il ne dînait pas en ce jour et ne parlait à personne. Également, Qatada, rahimahullah ta'ala, lors de funérailles, il ne parlait pas jusqu'à partir. Al-Hariri, il ne cessa de pleurer jusqu'à ce que les gens se séparent. Et Mohammed ibn Wasi' gardait la tête baissée, sans se tourner ni à droite ni à gauche. Également, on demanda à Sofiane ibn Uyayna, pourquoi a-t-on recommandé de baisser les voix lors des funérailles? Alors il dit, on a comparé cela au rassemblement devant Allah. Subhanallah, regardez comment il vivait des funérailles. On a comparé cela au rassemblement devant Allah. N'as-tu entendu Allah Azza wa Jal dire, yani dans le Coran, وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Dans le sens du verset, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Al-Hassan, il participait à des funérailles. lorsqu'il vit un homme parler à son compagnon et lui sourire. Regardez cette scène qui pour nous est totalement normale. Regardez le Hassan. Il vit un homme parler à un autre homme et il a souri. Il lui a dit, Subhanallah, celui qui est devant toi, ne te détourne-t-il pas du fait de sourire? Tu es un mort en face de toi et tu arrives encore à sourire? Et il lui dit, les pieux prédécesseurs révéraient le mort au point de ne pouvoir élever la voix devant lui. Également, Maymoun ibn Mihran, il rapporte, il dit, j'étais assis auprès de Omar ibn Abdelaziz. Il récita, Al-Hakum al-Takathur, hatta zurtum al-Maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et il dit, ô Maïmoun, je considère la mort comme une visite. Et le visiteur doit nécessairement rentrer chez lui, au paradis ou en enfer. Également Bishr ibn Mansour, il avait une pièce à laquelle il rentrait après avoir prié la prière du Asar. Il ouvrait la porte en direction du cimetière et il regardait les tombes. Isa ibn Umar, il rapporte que Amr ibn Utbah, il sortait des nuits sur son cheval et il se tenait devant les tombes. Et il disait, les feuillets ont été repliés et les œuvres élevées. Et il pleurait et il restait dans cette situation jusqu'au matin où il revenait auprès des siens pour prier la prière du Fajr. Également Abdul Wahid ibn Zayd, il regarde ses compagnons et leur dit, « Mes frères, ne pleurez-vous pas par désir de rencontrer Allah ? Celui qui pleure par désir de rencontrer son maître, il ne le privera pas de le contempler. Mes frères, ne pleurez-vous pas par crainte de l'enfer ? Celui qui pleure par crainte de l'enfer, Allah l'en préservera. Mes frères, ne pleurez-vous pas par crainte de la soif au jour de la résurrection ? Celui qui pleure par crainte de cela, on l'abreuvera devant toutes les créatures au jour de la résurrection. Mes frères, ne pleurez-vous pas? Si, pleurez pour l'eau fraîche de ce bas monde, afin qu'il vous en abreuve en cet instant, en compagnie des meilleurs repentants et des compagnons parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie qu'ils sont! Et il s'est mis à pleurer jusqu'à s'en évanouir. Al-Awza'i, il dit à Mansour, sache que si un vêtement des gens de l'enfer était suspendu entre ciel et terre, les habitants de la terre mourraient en raison de sa mauvaise odeur. Alors que dire de celui qui le portera? Et si une boucle des chaînes de l'enfer était jetée sur les montagnes de ce bas monde, elle fondrait comme le plomb jusqu'à parvenir à la septième terre. Alors que dire de celui qui y sera enchaîné? Un bédouin disait, comment peux-tu te réjouir d'une existence que les heures consument et d'une santé exposée aux maladies? Je m'étonne du croyant qui fuit la mort alors qu'elle est sa voie vers la récompense et tous seront rattrapés par la mort même s'il la fuit. Également, un des pieux prédécesseurs vit des gens. Il a vu des gens qui pleuraient sur un mort. Il s'apitoyait sur un mort et leur dit, « Apitoyez-vous sur vous-même. Cela sera meilleur pour vous. » Car le mort, lui, il est désormais préservé de trois choses épouvantables. Trois grandes terreurs. Il a déjà fait face à l'ange de la mort. Il a goûté à l'amertume de la mort. Et il a été préservé de la peur, de la crainte, d'une mauvaise fin. Également un pieux disait, quelle existence pourrait être bonne alors qu'il n'a aucun remède à la mort. Également Abu Hatim disait, tout ce sur quoi tu détesterais mourir, abandonne-le maintenant et qu'importe ensuite quand tu mourras, subhanallah, tout ce sur quoi tu détesterais mourir, abandonne-le maintenant. Omar ibn Abdelaziz, il disait, si le souvenir de la mort quittait mon cœur un seul instant, il le corromprait. Hamid disait, malheur au fils d'Adam, trois choses sont devant lui. Une mort au goût amer, un enfer au châtiment douloureux et un paradis à la rétribution immense. Et nous terminons, barakallahu fikum, avec ce récit de Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, un jour, rahimahullahu ta'ala, il vit un homme qui était âgé. Et cet homme était encore dans la désobéissance. Alors Al-Fudayl lui dit, Kam umrak, quel âge as-tu? Il lui dit, Sittoun, j'ai 60 ans. Il lui dit, depuis 60 ans, tu chemines vers ton Seigneur et tu en es presque à la fin. Il lui fait comprendre, ça fait 60 ans que tu vis et tu es plus proche de la fin de ta vie que de son début. Alors l'homme regarde Al-Fudayl et lui dit, Ya Aba Ali, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Et là, Al-Fudayl, choqué de cette parole, lui dit, « Sais-tu ce que tu dis? Prends-tu conscience de la parole que tu viens de dire ?» Il lui dit, « Oui, j'ai dit, « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. » Il lui dit, « Ama ta'alam tafsiru ? » Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Et là, on en tire une grande leçon. C'est que des fois, on répète des paroles, on ne prend même pas conscience de ce que nous disons. Il lui dit, connais-tu l'explication de la parole que tu viens de dire? Et le Fudayl, en réalité, il était choqué, puisqu'il dit, comment une personne peut dire ça et agir comme cela? Alors il lui dit, non, donne-moi son explication. Alors il lui dit, lorsque tu dis, Inna lillah, nous appartenons à Allah, c'est-à-dire que tu es un serviteur d'Allah, et que tu reviens vers lui, que tu appartiens à Allah, tabaraka wa ta'ala, et lorsque tu dis, wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire que tu vas revenir vers lui. Il lui dit, donc si tu sais que tu es un serviteur d'Allah, et si tu sais que tu vas retourner auprès d'Allah, sache que tu te tiendras debout devant Allah. Et si tu sais que tu te tiendras debout devant lui, alors sache qu'on t'interrogera. Allah Azza wa Jal t'interrogera. Et si tu sais qu'on t'interrogera, prépare une réponse à la question. Et là, l'homme, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à penser. Il a commencé à se remettre en question. Il lui a dit, « Wa mal hila, quelle est la solution ?» Il lui a dit, « Yassira, elle est simple. » Ensuite, il lui dit cette parole magnifique. « Ahsin fi ma baqi, yughfar laka ma mada. » Agis en bien en ce qui te reste à vivre et on te pardonnera ce qui est passé. Subhanallah, fais du bien dans ce qui te reste à vivre et tout ce que tu as fait dans le passé, il sera pardonné. Et là, on voit l'importance du repentir. Si tu te repens maintenant, tout ce que tu as fait, il sera pardonné. Et ensuite, peut-être qu'il te reste que quelques jours à vivre et tu rentreras au paradis. Mais ensuite, il lui dit, فَإِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَ فِي مَا بَقِي. Il dit, mais par contre, si tu agis en mal, en ce qu'il te reste à vivre, si tu continues dans la désobéissance, « Ukhidhta bima mada wa bima baqi. » Tu seras châtié pour ce qui s'est passé et pour ce, yani pour le restant de ta vie. Voilà pour cette conférence. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك